Vous écoutez les matinales d'Espace 2, 8h23. Voilà quelque chose que l'on ose dire, mais que l'on dira. Je ne l'ose dire et je le vous dirai. C'est le secret. Le secret, ou même les secrets, secrets au pluriel, c'est le titre d'un ouvrage récemment paru à l'initiative du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Un ouvrage qui revient sur l'exposition consacrée l'an dernier par le MEN au thème du secret. Un ouvrage qui réfléchit à la notion même de secret. Qu'est-ce qu'un secret? Notre invité aujourd'hui est le directeur du MEN, Marc-Olivier Gonzette. Bonjour.
Bonjour.
Marc-Olivier Gonzette, pour entrer en matière, outre cette chanson, je vous propose de nous placer sous le merveilleux et perspicace patronage de Jean de La Fontaine, un poème intitulé « Les femmes et le secret ». On l'écoute et puis ensemble on le commente.
Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce point bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle. Oh Dieu ! Qu'est-ce cela ? Je n'en puis plus. On me déchire. Quoi ? J'accouche d'un œuf. D'un œuf, oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur ma autre affaire, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. » N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre. Un œuf, gros comme quatre. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. « Vous moquez-vous, dit l'autre. » « Ah, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée, de bouche en bouche allait croissant. Avant la fin de la journée, il se montait à plus de 100.
Philippe Lejour, comédien, interprète de ce poème de Jean de La Fontaine, Les femmes et le secret. Marc-Olivier Gonzette, vous qui vous êtes penché sur cette question du secret, une réaction à chaud à ce poème?
Je dirais qu'il explique à merveille notre intention de base, c'est de dire que le secret est un mode de communication et non pas quelque chose qui finalement tait et cache. Et ce qui est intéressant dans ce poème, c'est qu'il y a une mise en abîme en fait du secret, parce qu'il n'y en a pas un, il y en a deux. Le secret principal, c'est que le mari teste sa femme. Donc, dans une certaine mesure, le destinataire, là, c'est plutôt la femme.
Il faudrait expliquer le terme de destinataire, la personne à qui on cache quelque chose.
Si vous voulez, le détenteur, c'est celui qui connaît le secret, qui le lance, qui le déclare. Et puis, il trouve toujours des oreilles attentives. C'est les dépositaires, le ou les dépositaires.
Les gens à qui on se confie.
Voilà, les gens à qui se confient. Tout le monde sait qu'un secret, c'est la chose la moins gardée qui soit. C'est-à-dire que très vite, sous le sceau du secret, il circule. Alors là, je ne serais pas forcément d'accord avec La Fontaine quand il dit « car ce n'était plus un secret ». Parce que là, c'est comme s'il pensait, dans son arrière-fond, qu'un secret ne se dit pas. Or, il a très très bien énoncé qu'un secret se disait.
C'est ça. Donc, et donc si vous dites, il y a deux secrets.
Il y a deux secrets. Alors, le secret principal, c'est celui que le mari teste sa femme
il
en prétendant
sa loyauté.
Avoir pondu un œuf. Et la rend, en fait, détentrice du secret secondaire, qui est « mon mari pond ». Et cette femme, effectivement, en tant que détentrice, ensuite choisit des dépositaires, hein, sa voisine, etc. Et puis, bah, le secret circule. Alors, j'imagine, si on va au bout du texte, qu'un retour a lieu à un certain moment. C'est-à-dire, c'est le côté cyclique du secret qui circule et qui, finalement, va de manière presque naturelle vers son destinataire.
C'est puisque... ça. Donc, c'est une des thèses principales qui traverse le livre et qui traversait l'exposition il y a une année. C'est que le secret est comme doué d'une vie propre et qu'il cherche à se frayer un chemin vers celui vers le groupe à qui on voulait le cacher.
Oui, alors si vous voulez, dans ce poème, il y a pas mal d'ingrédients. Il y a la révélation, hein, puisque une fausse révélation, celle du mari, hein, qui dit « Ah, j'ai pondu un œuf ». Ensuite, il y a la sécrétion, c'est-à-dire « je dis un secret, je le dis ». Et puis, il y a ce retour, il y a la rumeur aussi, parce que la chose enfle. Hein, on voit que le secret et la rumeur sont liés. Et puis, on a un magnifique exemple de communication sociale. Hein, c'est avec même, je dirais, une apparence de sexisme, puisque ça s'appelle « Les femmes et le secret ». Et puis, cette subtilité de La Fontaine qui dit « Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes ».
C'est vraiment un vers incroyable.
C'est un vers incroyable à l'époque, en fait, de La Fontaine, et avec peut-être tous les a priori qu'on va encore avoir sur les différences entre les gens. Et voilà, moi je trouve que ce poème effectivement dit très bien une partie des choses qu'on voulait énoncer dans notre expo. C'est que on pratique le secret couramment et ce secret, il nous aide à vivre en fait dans une certaine mesure.
Vous disiez forme de communication paradoxale. On voit aussi dans ce poème comment en choisissant à qui on dit un secret, on dessine des lignes de loyauté. C'est aussi une manière de dessiner des groupes à l'intérieur d'une société.
Absolument. Alors, dans ce cas-là, il s'agit plutôt de rumeurs, mais dans d'autres cas où le secret, va dire, constitue une sorte de différence avec les autres, on peut dire qu'autour du secret se constitue une communauté. Une communauté qui va ensuite partager quand même ce secret par des signes, hein, elle va envoyer à l'extérieur l'impression que finalement il y a un secret au moins qui se partage, et ensuite ça va peut-être aussi alimenter une certaine rumeur sur ce groupe, ce qu'il cache, ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'il faudrait dévoiler. Et puis ensuite, vous avez toute la série d'histoires, les limiers qui se mettent à essayer d'aller savoir ce qui se passe là derrière. Donc là, on sent bien le journalisme d'investigation, par exemple, hein, qui veut dire à un plus grand nombre ce qui se tient caché. Il y a tout ce qui les stéréotypes, hein, qui peuvent sortir, les peurs larvaires sur ce qu'on ne connaît pas, la jalousie aussi, ne pas faire partie du groupe des dépositaires, c'est très désagréable.
Vous avez utilisé ce terme de secreté qui est théorisé à l'intérieur du livre, notamment par Monsieur Zempleni, qui dit que pour qu'il y ait secret, donc il faut qu'il y ait l'information cachée, il faut qu'il y ait un destinataire du secret. Vous l'avez dit, quelqu'un qui ne doit pas savoir le secret. Et puis le nœud de cette théorie est peut-être dans cette histoire de sécrétion, c'est-à-dire qu'à force de se démener pour cacher un secret à son destinataire, on produit des signes. Vous l'avez dit à l'instant. Quel genre de signes, par exemple?
Ça peut être des signes volontaires. Voyez, nous sommes un groupe qui cachons un secret et vous n'en faites pas partie.
Oui. Hein,
ça peut être des signes cabalistiques qui sont destinés uniquement, qui sont codés. Ça peut être ces échanges codés d'une certaine forme, on va dire, d'intelligentsia ou de chasse gardée qui veut bien montrer à l'extérieur que finalement on ne partage pas ces codes et qu'on ne les connaît pas.
Et qu'on fait sentir à ceux qui ne doivent pas savoir qu'ils ne doivent pas savoir, qu'ils sont à l'écart.
Donc c'est pas intéressant, un secret qu'on n'énonce pas. Un secret, pour être pleinement socialisé, il faut qu'il se socialise. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive, en tout cas, à déterminer qu'il y a secret. Puis ensuite, vraisemblablement, au bout d'un certain temps, on va plus loin. On a des couches qui s'ajoutent de connaissances de ce qui est en train de se passer et qui nous informent sur notre comportement social.
Vous avez parlé des signes que les détenteurs d'un secret délivrent délibérément. Il y en a d'autres, hein. On pense à des détenteurs de secrets qui émettent des signes involontaire, soit par erreur, soit par langage non verbal, par un silence, par un ton de voix détourné, par une posture corporelle bizarre.
Ouais, ouais. Alors là, c'est tout. On a récemment eu la chance de recevoir un mentaliste au musée. On voit à quel point ces gens sont capables d'interpréter le moindre signe que nous donnons la moindre information que notre visage déclenche, c'est pas de la magie, c'est de la déduction et de l'intuition. Donc ça, il faut se dire qu'on le fait sans arrêt. On n'arrête pas d'envoyer des messages quelque part cryptés à nos proches qui sont là aussi pour les décrypter ou les respecter. Respecter finalement le secret ou le fait que, ben voilà, c'est crypté, donc on n'y va pas. Monsieur Zempleni, d'ailleurs, il développe dans son article une thèse autour du secret psychanalytique. C'est-à-dire de finalement cette manière que nous avons d'être travaillés par des choses dont nous n'avons pas conscience et qui sont là en profondeur.
Une part de nous-mêmes qui garderait un secret à l'égard de notre conscience.
Voilà, et qui peut être qui est généralement lié à notre histoire personnelle et à des événements peut-être en tout cas traumatiques qui peuvent nous avoir frappés lorsque nous étions plus jeunes.
Et cette part secrète de nous justement délivrerait des signes qui seraient les symptômes sur lesquels travaille le psychanalyste.
Voilà, et puis aussi délivrerait des comportements particuliers qui sont finalement liés à cette espèce de boîte noire cachée en nous et qu'il serait difficile de décoder sans avoir une anamnèse de la question.
Je reviens au poème de La Fontaine de tout à l'heure, pas seulement parce que je l'adore, parce que je le trouve quand même très perspicace justement. Il souligne aussi dans son poème La Fontaine qu'une chose invraisemblable, comme le fait qu'un homme ponde un œuf, dite sous le sceau du secret, est plus facile à faire gober en quelque sorte. C'est juste selon vous ça ?
Oui, on va souvent chercher l'irréel comme la première des explications plausibles au lieu d'aller chercher les choses réalistes. Et là, je dois dire, le poème nous montre une jolie mise en scène. Ça, c'est nocturne. Vraisemblablement, on imagine le mari tenant un œuf dans sa main après avoir gémi pendant plusieurs minutes. Donc, il y a une mise en scène, en fait, si vous voulez, qui est très efficace et qui, à la fois, est totalement irrationnelle. Mais les signes sont là, donc on entre dans cette fantasmagorie et on la colporte comme si elle était réalité. Là, alors justement, on part dans cette analyse de la rumeur. Hein. Des fois, plus c'est gros, plus ça s'enfle.
Alors, vous me tendez la perche sur une autre question sur laquelle on peut venir et sur laquelle vient le livre. D'ailleurs, c'est la force des théories du complot. Est-ce que le fait qu'elle repose sur de prétendus secrets les rend plus séduisantes et plus faciles à croire pour le public ?
Oui, alors ça c'est compliqué parce que il y a souvent des raisons pour lesquelles on peut se méfier finalement du secret lui-même et de son fonctionnement.
Des bonnes raisons parfois.
Des bonnes raisons, oui. C'est cette espèce de dynamique entre le secret et la transparence où on voit très bien que socialement les deux domaines s'affrontent. Certaines personnes prétendant qu'une transparence totale serait bienvenue, alors que d'autres cherchent à expliquer ou voire à cacher de manière assez morbide, hein, parfois, des choses qu'ils ne veulent pas partager. On se rend compte qu'en fait, la dynamique sociale, c'est une opposition, c'est une dialectique entre ces deux pôles qui n'est jamais totalement dans le secret et jamais totalement dans la transparence. En fait, c'est dans un usage intelligent et mesuré des deux notions, essayer de découvrir et d'avoir accès à ce qui est nécessaire pour vivre, mais nous laisser cacher et nous laisser vivre avec ces dimensions qui nous permettent aussi d'exister sans être toujours exposés totalement au projecteur.
Là, vous arrivez aussi sur une dimension politique du secret, hein, le secret qui est ambigu politiquement. J'ai droit à ma vie privée, personne n'a à savoir ce que je dis à ma compagne sur l'oreiller, mais ce que les cadres d'une multinationale disent à mes parlementaires dans une alcôve, voilà des secrets qui n'ont pas bonne presse. Qu'est-ce qui distingue le secret légitime du secret illégitime en politique ?
C'est une question compliquée. Je dirais que le secret légitime, c'est celui qui permet de faire fonctionner la machine sans la gripper, sans non plus prétériter des collectivités entières à partir de ces pans de réalité cachée. Tout le monde sait que c'est normal qu'on cache une partie de la réalité aux autres. En revanche, il y a un moment où ça devient dramatique. Mais la dynamique du secret fait aussi que socialement, il y a des forces qui vont se mettre en place pour aller débusquer ces poches complètement, je dirais, maléfiques hein, à ce moment-là et qui déstructurent, en fait, qui désocialisent. Donc, moi, j'imagine qu'il y a toujours pouvoir et contre-pouvoir. Toute l'affaire autour des leaks le montre très bien. Ça nous a permis de nous rendre compte à quel point nous étions surveillés. Puis en même temps, les leaks sont partis aussi de la volonté de crypter, c'est-à-dire de la volonté de protéger le citoyen de la toute-puissance de l'État espion. Donc on voit bien qu'il y a les deux tendances. Il faut qu'on crypte une partie de nos comportements, puis en même temps, on ne peut pas supporter l'espionnage et le cryptage de l'État.
Oui, parce qu'en démocratie, on cherche en général à éviter que trop de pouvoir s'accumule aux mains de trop peu de monde, de trop peu d'instances. Donc on conteste, j'ai l'impression, légitimement le droit des puissants à avoir des secrets. On défend le droit des simples particuliers à en avoir. Est-ce qu'à la rigueur, on pourrait aller jusqu'à dire que le secret, c'est du pouvoir ?
Oui, un certain usage du secret, c'est du pouvoir. Ça l'a toujours été. C'est énoncé dans le livre, notamment autour de l'accumulation de savoir qui se passe aujourd'hui avec les grands médias que sont Google, Apple, Facebook, etc., qui concentrent en fait un nombre invraisemblable de données dans une zone géographique et symbolique précise de l'humanité. Et on ne sait pas encore très bien ce qu'il adviendra de cette masse de données accumulées, je dirais, en grande partie à notre insu.
Marc-Olivier Grosset, merci beaucoup. Vous nous parliez de Secret, donc ce livre qui fait suite à l'exposition, une espèce de catalogue en retard. En même temps, il fallait pas que le catalogue paraisse avant l'exposition, puisque l'objet de l'exposition, c'était justement de vivre le secret et non pas de le lire, le découvrir dans le catalogue. Donc Secret, édité par le musée d'ethnographie de Neuchâtel, sous votre direction notamment. Je ne cite pas toutes les personnes qui ont participé, elles sont nombreuses. Un bel ouvrage, épais, illustré, collectif et vraiment passionnant à lire. Merci beaucoup de votre visite.
Merci de l'invitation.